Et si la notion même de gagner sa vie, bah, c'était devenu le concept le plus toxique de notre économie actuelle?
C'est clair. On a tellement intégré l'idée que le travail est l'unique moteur de tout que penser autrement, ça ressemble presque à une hérésie.
S'acharner à maintenir le travail salarié en vie, c'est peut-être exactement ce qui détruit notre prospérité. Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on fait une véritable plongée au cœur du système.
Oui, on va explorer un corpus de documents vraiment dense produit par Thierry Curti, un prospectiviste et designer sociétal.
Exactement. Il y a des infographies systémiques, des articles prospectifs, des vidéos. La mission d'aujourd'hui, pour les esprits curieux qui nous écoutent, c'est de comprendre pourquoi ce modèle s'essouffle.
Et surtout d'analyser cette proposition radicale qui est la fin du travail au profit de ce qu'il appelle l'humain contributif.
Mais avant de plonger, il faut vraiment faire un avertissement. Les sources qu'on analyse aujourd'hui contiennent des vues économiques très tranchées.
Ah ça oui, l'analyse tire à boulets rouges avec la même force sur le subventionnement massif des grandes entreprises que sur les modèles classiques d'aide sociale.
Donc on le dit haut et clair, notre but n'est absolument pas de prendre
Ah,
parti.
ni à gauche, ni à droite.
Zéro idéologie de notre part. On rapporte juste la mécanique de ces concepts audacieux de manière totalement neutre.
Voilà. Et le point de départ de ces textes, pour expliquer ce malaise, c'est la fameuse rupture de l'équilibre général.
L'équilibre général, c'est une théorie des prix Nobel français Gérard Debreu et Maurice Allais. En gros, c'est un état où le marché trouve une stabilité.
C'est-à-dire que même s'il y a des riches et des pauvres, le système tourne et la majorité peut se loger et se nourrir. C'est ça, le système est cohérent, sauf que selon l'auteur, cet équilibre a volé en éclats dans les années 70 et 80, avec la financiarisation.
Et les chiffres donnés dans les sources donnent le vertige. Si on regarde la France en 96, le capital des 500 plus grandes fortunes, c'était environ 6% du PIB.
Ce qui est déjà énorme.
Oui, mais 30 ans plus tard, aujourd'hui, on frôle les 45,8%. On n'est plus dans la simple inégalité, là.
Non, c'est une concentration qui frise la féodalité, en fait. Et le moteur de ce déraillement, c'est ce qu'on appelle l'effet Cantillon.
L'injection monétaire, c'est ça?
Exactement. Quand les banques centrales impriment de la monnaie, cet argent ne tombe pas du ciel de manière uniforme. Les premiers servis, ce sont les marchés financiers.
C'est comme être au premier rang d'un open bar géant. Les premiers ont les verres pleins et ceux du fond de la salle attendent des bouteilles qui arrivent souvent vides.
J'adore la métaphore. Cet argent frais va direct dans les actions, l'immobilier, ce qui explique que des boîtes comme Nvidia ou Apple dépassent les 3 000 milliards de capitalisation.
Pendant que le salaire de l'employé moyen stagne, le travail ne paye plus. Aujourd'hui, un couple peut travailler à 100% et s'appauvrir.
Ce qui est fascinant, c'est le fameux graphique de productivité de Curti. Les courbes se sont croisées.
C'est-à-dire.
Pendant les 30 Glorieuses, on inventait des machines et ça créait de l'emploi pour les faire tourner. La productivité et l'emploi montaient en parallèle.
Ah ouais, alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse.
Complètement. Avec la numérisation, la courbe de productivité explose vers le haut, mais le besoin de main-d'œuvre s'effondre. La machine remplace carrément l'humain.
Attendez, objection. Si le travail humain s'effondre face à la technologie, pourquoi est-ce que tous les gouvernements parlent de réindustrialisation de masse?
C'est le paradoxe soulevé par les textes. Ils qualifient cette volonté de réindustrialisation de chimère totale.
Mais n'est-ce pas essentiel pour l'indépendance d'un pays?
C'est ce qu'on nous vend, mais l'argument des sources est froid et logique. Les pays occidentaux ne peuvent structurellement pas concurrencer les pays moins avancés sur des biens à faible valeur ajoutée.
C'est vrai que fabriquer un micro-ondes à 150 euros ou un lave-linge abordable en France, ça n'a aucun sens économique si on veut payer un salaire décent aux constructeurs.
Du coup, pour maintenir l'illusion du plein emploi, les gouvernements ouvrent les vannes. La Cour des comptes évaluait les aides aux entreprises à 88 milliards en 2014.
Et on dépasse les 170 milliards aujourd'hui. On engloutit des fortunes.
Tout ça pour subventionner artificiellement des emplois obsolètes ou créer des tâches administratives inutiles, les fameux bullshit jobs.
Juste pour justifier un salaire entre 9h et 17h. Mais il y a aussi ce gros biais de nostalgie dont parle l'auteur. J'ai trouvé ça génial.
La fameuse machine à laver inusable des années 70.
Voilà. On a tous entendu quelqu'un dire qu'avant, l'électroménager vedette ou brand, c'était fabriqué pour durer toute une vie.
Sauf que les documents rappellent que cette machine, elle coûtait l'équivalent d'un mois de salaire.
Et l'anecdote de la machine conservée 27 ans montre qu'elle a dû être réparée 12 fois. Si on avait plein de réparateurs à l'époque, c'est parce que ça tombait en panne tout le temps.
Alors qu'aujourd'hui, un lave-linge basique, c'est quoi? Quelques jours de travail et l'industrie produit des volumes gigantesques.
Le retour en arrière est illusoire. Et puis, géopolitiquement, s'acharner à garder cette industrie de base, ça a un coût caché terrible pour le reste du monde.
C'est une analyse très forte des textes. En subventionnant nos propres usines, on prive les pays émergents de leur tremplin de développement naturel.
Bah oui, ils ne peuvent plus nous exporter leurs produits.
Du coup, ils s'endettent au lieu de générer des capitaux pour s'équiper. Résultat, ils ne peuvent pas financer leurs infrastructures ou leur transition écologique.
C'est pour ça qu'on voit ces images tragiques de rivières jonchées de déchets plastiques là-bas. C'est faute d'infrastructures parce qu'on monopolise la production avec notre dette.
Et cette fuite en avant de la dette, ça nous amène directement à ce que les sources nomment le principe des cycles récessionnels.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Quel est le prix de cette obstination à sauver l'emploi?
C'est une boucle destructrice. Le déficit budgétaire pousse l'État à emprunter, ça fait monter la dette souveraine et donc les taux d'intérêt.
Ce qui force les gouvernements à imposer l'austérité.
Exactement. Et l'austérité, ça baisse la consommation, ce qui génère des faillites, du chômage et de la délinquance.
Et traiter ce chômage et cette délinquance, ça coûte encore plus cher à l'État, ce qui aggrave à nouveau le déficit. Le serpent se mange la queue.
Et l'auteur dressera parallèle historique qui fait froid dans le dos, à un siècle d'intervalle.
Ah oui, la symétrie est dingue. La crise du charbon de 1873, c'est le copier-coller de la crise pétrolière de 73.
La panique bancaire de 1907, c'est exactement la mécanique de la crise des subprimes de 2008.
Ensuite, la récession de 1920 trouve son écho dans la récession du Covid en 2020.
Et il compare même les politiques erratiques et isolationnistes d'après 25 à l'ère Trump aujourd'hui avec la perte de confiance internationale.
Donc la conclusion implicite de tout ça ?
C'est qu'on se dirige tout droit vers un équivalent de la Grande Dépression de 1929, mais pour 2029.
C'est fou. On utilise les recettes du XXe siècle, le travail de masse, pour résoudre une équation du XXIe siècle, tout en répétant les erreurs du XIXe.
Ben, si on prend du recul, la solution n'est pas de freiner la machine. Il faut accepter que le capitalisme a gagné. Il a réussi à rendre le travail humain marginal.
Le défi, ce n'est plus la production, c'est la distribution. Et c'est là qu'interviennent les solutions proposées, la fameuse naissance de l'humain contributif.
Voilà, puisque le système s'effondre, l'auteur propose de passer au secteur quaternaire, l'économie de la contribution.
Fini le travail contraint dans des usines ou des bureaux gris, on parle d'un investissement citoyen dans le soin, l'éducation, l'écologie, l'art.
Et pour financer ça, les textes avancent un revenu garanti tripartite. C'est assez technique, mais très ingénieux.
Il y a trois strates, c'est bien ça?
Oui, un revenu universel en monnaie locale pour irriguer l'économie de proximité. Un revenu de base qui remplace toutes les aides sociales actuelles.
Et un revenu contributif.
Et il y a aussi l'AMI, l'action mutuelle d'investissement.
Exactement, pour démocratiser le capital. Mais le plus gros morceau, c'est la révolution fiscale. C'est vraiment le cœur de la proposition.
Alors là, accrochez-vous. L'auteur critique fortement les taxes sur les super-riches, comme la fameuse taxe Zucman de 2%.
Il juge ça totalement partiel. À la place, il propose de baisser l'obsolète impôt sur le revenu pour tout le monde à 10%.
Attendez, si on baisse l'impôt à 10%, l'État fait faillite demain, non?
Non, parce que le but de ces 10%, c'est de stopper net l'évasion fiscale. Ça devient plus cher de payer des avocats pour cacher son argent aux Bahamas que de payer ces 10%. Ah, malin! Et l'État récupère l'argent ailleurs avec le fameux impôt du XXIe siècle, l'impôt sur le niveau de vie.
C'est une taxe forfaitaire sur le style de vie matériel.
J'adore l'analogie pour expliquer ça. C'est comme au restaurant. On n'essaye pas de taxer un client sur ce qu'il déclare avoir dans son portefeuille.
Parce qu'il peut facilement le café, oui.
Exactement. On le taxe sur la taille du festin qu'il est en train de dévorer à sa table.
C'est l'idée. Peu importe si votre jet privé ou votre château est loué par une société écran ou un trust, l'utilisation du bien est factuelle et localisée.
On taxe l'empreinte matérielle, le jet, la Rolls avec chauffeur.
Mais cela soulève une question cruciale. Comment l'État peut-il évaluer un niveau de vie aussi complexe pour des millions de gens?
Ça sent un peu Big Brother, non?
Les sources précisent que ça nécessitera l'utilisation massive de l'intelligence artificielle et de la documentation associative. C'est la base d'une civilisation post-salariale.
Et cet impôt est modulé par un coefficient d'inégalité. Et le riche peut voir son impôt baisser s'il investit dans le bien commun ou l'écologie.
L'auteur fait d'ailleurs un clin d'œil historique génial à l'impôt sur les portes et fenêtres du 19e siècle.
Ah oui, racontez-nous ça.
À l'époque, pour taxer la richesse visible, on comptait les fenêtres. Plus on en avait, plus on payait. Ça a poussé les gens à murer leurs fenêtres ou à créer de fausses fenêtres en trompe-l'œil à Paris.
Ce qui prouve que chaque époque crée un impôt adapté à sa réalité physique. À l'ère numérique, on doit taxer la trace matérielle.
C'est vraiment la fin du système féodal du salariat.
Bon, Faisons une synthèse de ce grand voyage. L'économie moderne souffre parce qu'elle s'accroche au cadavre du plein emploi.
Et accepter la fin du travail n'est pas une apocalypse, c'est une vraie libération.
C'est ça. Ça ouvre la voie à cette ère de contribution, de croissance qualitative et de justice fiscale. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond pour notre audience?
Ça signifie que le logiciel change.
Complètement. Ça signifie que la notion même de gagner sa vie est peut-être déjà devenue obsolète. La nouvelle quête, c'est de savoir comment contribuer à la société.
Et pour clore cette exploration, j'aimerais lancer une dernière idée provocatrice qui prolonge vraiment ces textes.
Je vous écoute.
Les sources recommandent de laisser la production industrielle aux pays émergents pour qu'ils puissent se développer et créer une classe moyenne.
Logique.
Mais que se passera-t-il si ces pays, grâce à l'accès instantané à l'intelligence artificielle et à la robotique devenue très bon marché, décident de brûler les étapes?
C'est-à-dire?
S'ils décident d'automatiser entièrement leurs usines demain, avant même qu'une véritable classe moyenne salariée n'ait eu le temps de s'y former.
Oh!
Peut-être que la fin du travail n'est pas seulement l'avenir de l'Occident, c'est peut-être le destin imminent de l'humanité tout entière.
Une perspective vertigineuse à méditer. Merci à tous les esprits curieux d'avoir exploré ces concepts avec nous aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle plongée.